そが肝に銘じろ。まるでステージ上いるイメージをいつだってやるときやる。サバイビー傷だけ絶対つけねえ名前に東京トライブ Never ever die それぞれのエリアの東京トライブ守るべきもののため戦ってる Love and peace 仲間の幸せ。
Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast numéro 17. Pour fêter la rentrée istasienne et les 4 ans du site également, vous êtes en bonne compagnie puisque nous accueillons pour la première fois Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et aussi Elvire. Bonjour Elvire. Justin.
Salut.
Nicolas.
Salut.
Et Marc.
Bonjour.
Nous avons donc un sommaire chargé puisque nous allons parler du retour de John Woo, du dernier film de Kawase Naomi, de la fin des studios Ghibli, ou pas, ça va être sujet à débat, de l'échec de The Raid 2, mais on commence par l'événement cinéphilique de toute rentrée cinématographique qui se respecte, l'étrange festival qui a fêté ses 20 ans cette année du 4 au 14 septembre au Forum des Images de Paris. Elvire, Marc, Nicolas, vous y étiez. Quels étaient, selon vous, les événements cinématographiques en ce qui concerne l'Asie de cette édition de l'étrange ? Marc, pour toi, quel était le film ou l'événement à retenir de cette,
ben...
cette année ?
Ça va être assez simple. En fait, le film événement qui m'a marqué, c'est le film de Son Ocean, qui était vraiment un divertissement de haut de gamme.
Tokyo Tribe.
Tokyo Tribe, ouais, un divertissement vraiment haut de gamme. En fait, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu à l'avant-première et à la deuxième séance. Et c'est vraiment un très très bon film de Son Ocean. Le type se prend pas la tête. C'est filmé divinement. Les acteurs sont cool. Il y a 81% du dialogue des films qui sont en hip-hop, qui sont rappés. Et le film, très bonne facture, vraiment excellent au niveau de des décors. Et c'est vraiment super bien. Et franchement, je trouve que c'est un des meilleurs films de Son Ocean jusqu'à présent. Quoi. Il ne fait pas dans le mélodramatique à la Imizu, quoi, tu vois, mais il fait vraiment du divertissement pur et simple. Il en est conscient et il le fait de manière vraiment très très bonne. Et ça reste pour moi le film marquant de l'étrange festival.
C'était un peu le cas déjà dans Why Don't You Play in Hell, hein, qui jouait sur cette veine très divertissante de son cinéma après avoir...
Absolument, mais je pense qu'il est allé encore plus loin dans le délire avec ce film-là qu'avec Why Don't You Play in Hell. Et c'est assez jouissif de voir ça parce que tu vois que le type s'est fait plaisir en filmant et les spectateurs sont ravis, quoi. C'est pas le genre de film prise de tête à Lars von Trier où t'as un message philosophique, mais c'est vraiment un très très bon divertissement et je le conseille et je crois qu'il va sortir en salle en 2015 et c'est plutôt une bonne chose, quoi. Vraiment très très bon film.
Elvia, est-ce que tu partages cet enthousiasme sur The Sonation ?
Tout à fait, je dirais pas forcément que c'est son meilleur film parce que ça reste du divertissement pur, mais moi j'ai préféré Why Don't You Play in Hell, qui était très divertissant aussi, mais peut-être un peu moins barré, mais du coup un peu moins n'importe quoi, donc j'ai préféré. Mais après c'est un film super, j'ai passé un excellent moment. C'est assez déroutant d'entendre du rap japonais pendant 2 heures. Mais non, voilà, c'est un très très bon film.
Est-ce qu'il y avait un autre film ou événement marquant en termes de cinéma asiatique cette année, selon toi, à l'étrange festival ?
Alors, il n'y en avait pas beaucoup, selon moi. Donc, je vais parler du film de clôture, The World of Kanako, qui est à la fois un film génial et à la fois un film super nul. Il est vraiment dans les extrêmes.
Ouais, donc c'est tranchant, même pour une personne qui
même pour moi,
partage son public littéralement.
Ouais, là c'est l'avis vraiment. Mon avis est très particulier sur ce film, puisqu'il est génial par son côté outrancier jusqu'au boutiste, et il est nul en fait parce que ça tire en longueur, parce que les scènes se terminent jamais, et justement ce côté outrancier à la fois plaisant, mais c'en est trop. Mais c'est un film assez marquant en fait. J'ai pas d'avis tranché, particulièrement tranché dessus, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais c'est un film dont je me rappellerai au moins pendant quelques mois, c'est déjà pas mal.
Et toi Nicolas ?
Bah outre ces deux films-là aussi qui m'ont assez marqué, et je rejoins à peu près vos avis en fait,
Donc moi, c'est le film américano-iranien A Girl Walks Home Alone at Night de Anna Lily Amirpour, qui est un film américano-iranien. Donc au départ, je me suis dit, c'était sur la fin de festival, il était projeté en fin de festival. Je me dis, oh là là, un film iranien, ça va être chiant, comme 70% des films iraniens. Enfin, ça, c'est mon avis.
C'est un fait jugé pour le cinéma iranien.
Ouais, non, mais j'ai vraiment du mal avec certains films âpres du cinéma iranien. Et en fait, c'est un superbe film, parce que, on ressent beaucoup l'influence américaine du cinéma américain.
La production est américaine, d'ailleurs.
Voilà, la production américaine, tout en ayant des racines très iraniennes. Donc c'est le mariage entre les deux qui donne vraiment un film assez, assez atypique. Disons que ça ressemble pas mal à... Donc ça se passe dans une ville qui s'appelle Bad City, donc qui est située en Iran. C'est un peu une ville intemporelle qui est une espèce de ville du vice, façon, version iranienne en fait. Donc ça fait un peu penser à Sin City, c'est un peu pareil. Et en fait, ça croise avec un film de vampire qui fait penser en fait à plein de types de cinéma différents, surtout américains. On pourrait penser, parce qu'il y a un côté western, il y a un côté film noir, ça fait penser à du Jarmusch, ça fait penser à il y a une musique de Ennio Morricone, ça fait aussi un peu penser à du Murnau, à du néo-réalisme, plein de trucs différents. Et c'est vachement bien, c'est du cinéma assez atypique. Et ça m'a assez marqué en fait. Et puis les acteurs sont très bons, c'est un rythme lancinant. Qui t'aspire un peu comme le dernier Jarmusch, un peu je pense que Only Lovers,
Left Alive, ouais.
C'est ça. Et donc c'est un peu dans cette lignée là sauf que il y a ce côté un peu iranien avec un propos féministe en fait qui dénote par rapport à forcément ce qui se passe en Iran au niveau de la condition de la femme qui est vraiment intéressant. Et donc voilà, c'est un très beau film j'espère qu'il sortira en salle.
C'est bien parce que tu réponds un peu à la question et tu anticipes même la question que je voulais poser, puisque il me semblait, n'ayant pas vu les films de l'Étrange Festival cette année, que les événements étaient concentrés pour le cinéma asiatique autour de Sunocian notamment, de Takashi Miike, qui sont quand même des cinéastes qui font des films depuis plus de 20 ans et qui au final se sont beaucoup assagis, en tout cas pour Miike c'est le cas. Et je me demandais si justement le cinéma asiatique était encore représentatif de ce courant étrange, un peu extrême du cinéma, où finalement il fallait pas aller vers d'autres nationalités aujourd'hui pour nourrir ce festival et nourrir ce genre de cinématographie.
Ah, pour ce qui est du cinéma coréen, les films, j'ai trouvé, étaient assez convenus. Tu vois, c'était vraiment soit des films de baston ou des dramas assez convenus. Ensuite, tu avais Sonotion qui exposait le compteur. Et après... le film iranien, effectivement, Jarmuschien, qui était vraiment excellent, quoi. Enfin, vraiment, ça a été une bonne surprise. Mais ensuite, il a manqué de... J'ai l'impression que c'est un peu en stagnation, en ce moment, le cinéma asiatique, ou du moins celui qu'on voit dans les festivals. Il n'y a pas de grande surprise, quoi.
Vous partagez cet avis? C'était un peu ce que disait
Frédéric Tan. C'est justement ce que disait Frédéric Tan dans l'interview, c'est que le cinéma asiatique a tendance justement à stagner et à même la qualité des films asiatiques baisse en fait au fur et à mesure.
Nicolas,
alors, je vous rejoins là-dessus, mais après je trouve quand même qu'ils sont encore assez bons dans ce qu'ils savent faire. Quand tu dis que la plupart des films coréens étaient assez convenus, mais n'empêche que The Five était vraiment très convenu. C'est le film qu'on a vu 10 000 fois. Le pitch était assez original, mais au final il l'a pas tellement exploité.
Vous trouvez la critique de The Five juste à côté, qui est sortie voilà. Pas sorti en DVD.
Mais je crois que c'est Yannick qui a fait la critique. Il avait aimé lui, je crois, donc.
Ouais.
Enfin voilà. Et par contre, je vais trouver Hawaii. Moi, c'était peut-être pas forcément votre avis, mais je trouvais Hawaii qui était quand même assez
pas mal.
C'est pas original du tout.
Non, c'est pas original.
Mais c'est très très efficace, très très bien mis en scène, et surtout c'est super bien joué parce qu'il y a Kim Yoon-seok.
Oui, mais il faut toujours les mêmes films quoi qu'il en soit.
Ouais, mais non, pas forcément. Pas forcément quand tu vois Southbound qui a été présenté au festival coréen. Quand tu vois Les Braqueurs, ça n'a rien à voir, son rôle entre le rôle des Braqueurs et le rôle de...
Là, on parlait plus dans le cinéma un peu étrange, en fait, où ils sont violents, etc. C'est quand même souvent à peu près la même chose, quoi.
Oui, je suis d'accord, mais ça reste efficace, quoi.
Il n'y a plus de grosses surprises.
Non, mais ça
c'est
reste efficace.
C'est efficace, ils le font bien, mais il faudrait un renouvellement, en fait.
C'est-à-dire que quand tu vois... Moi, quand je revois Hawaii, puis que je vois les tonnes de films d'action américains du même genre qui sortent... S'ils sortent chaque année au cinéma, je préfère revoir Hawaii 10 fois parce que c'est tellement mieux mis en scène et tellement, tellement bien torché que, au final.
Alors sur le cinéma coréen, je pense qu'on pourra reprendre cette discussion dans exactement un mois, parce qu'il y a le festival du cinéma, le festival du film coréen à Paris. Merci Elvia, je crois qu'on t'entend souffler derrière, qui arrive à partir du 28 octobre. Donc je pense qu'on sera aussi tous là pour voir les films. Donc on reprendra aussi cette discussion sur la qualité du cinéma coréen à ce moment-là. Nous allons donc parler d'un deuxième sujet. La nouvelle est tombée cet été, les studios Ghibli arrêtent leur production cinématographique pour se concentrer exclusivement sur leur catalogue. Est-ce que, Justin, tu peux revenir un peu sur cette annonce et nous dire si elle marque vraiment la fin des studios Ghibli tels qu'on l'a annoncé un peu partout de manière catastrophique cet été ?
Alors, c'est pas tout à fait la fin des studios Ghibli, c'est juste en fait la production cinéma qui est mise en suspens momentanément, donc suite à l'échec des trois dernières sorties. Donc il y a le vent se lève de Miyazaki, le conte de la princesse Kaguya de Hisao Takahata, et puis Marnie de, donc j'ai oublié son nom, réalisateur d'Arietti précédemment. Et donc voilà, suite à l'échec de ces trois films, donc, et à la retraite aussi de Miyazaki, la production est mise en suspens, vu que jusque-là, de toute façon, depuis 10-15 ans, quoi, c'était le studio ne survivait que grâce à production, aux réalisations de Miyazaki, vu le retrait de Takahata, même s'il a sorti un film cette année. Le précédent, c'était Les Voisins des Yamada en 99.
Ouais,
ça, et puis tous les autres productions, ils avaient tenté de lancer des jeunes réalisateurs, donc soit les réalisateurs n'étaient pas assez doués, soit on leur a pas laissé la marge pour qu'ils présentent une certaine personnalité dans leur mise en scène, comme Arietti par exemple, qui était vraiment un décalque de tout ce que Miyazaki peut faire. Et puis les fois où ils ont eu l'occasion peut-être d'avoir un vrai réalisateur avec une personnalité, comme Mamoru Hosoda, qui devait faire Le Château ambulant, donc ça s'est pas bien passé avec Miyazaki, donc finalement là, il restait que Miyazaki en vrai réalisateur majeur du studio, donc là ils sont un peu dans l'impasse donc ça va être la publicité, l'exploitation du catalogue, la publicité des courts-métrages, et puis
la série qui va bientôt sortir, je crois. Il n'y a pas une série qui va sortir ?
Ah, ça, oui, je crois, oui, production TV, il y a la télévision aussi. Mmh. Mais pour le cinéma, donc en attendant, il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. Donc c'est en suspens dans les prochains mois, les prochaines années. Donc,
c'est vrai qu'en France et même un peu partout dans le monde, sauf au Japon, on avait l'impression que Ghibli, et surtout Miyazaki, puisqu'il résumait à peu près la production cinématographique de Ghibli ces dernières années, manger à peu près tout ce qui pouvait se faire en termes d'animation. Est-ce que cette annonce ne va pas laisser la place à d'autres réalisateurs, selon vous, qui vont pouvoir un peu émerger suite à cette mise entre parenthèses de la production chez Ghibli ?
Alors, si on étend de la Ghibli, la production japonaise en général, peut-être que ça va amener des sorties d'autres films, vu que là, en France, je crois qu'il y a eu une exception, c'était Les Enfants Loups, sinon, qui a bien marché, qui est sorti en salle, qui a bien marché. Sinon, il n'y avait pas beaucoup de sorties, et quand ça sortait, il n'y avait pas beaucoup d'écho dans les médias, de toute façon. Mm. Comme cette année, il y avait un très bon film qui est sorti, c'était L'île de Giovanni,
qui a
fait un bide total, alors que c'était un très beau film. Donc il n'y avait pas trop d'écho, et puis quand les distributeurs tentaient le coup, c'était un échec.
Il y a Budori aussi, qui est sorti complètement anonymement, après avoir été repoussé au moins trois fois, deux ou trois fois, par les pauvres distributeurs d'Eurozone, qui envoient de toutes les couleurs, malheureusement, parce que...
Il faut
les applaudir, parce qu'ils essayent de porter le film d'animation asiatique, même malgré les échecs, ils continuent. C'est dommage que, malheureusement, ça ne marche toujours pas. Quoi.
Surtout qu'on a vraiment l'impression que c'est les médias qui véhiculent pas parce que L'île de Giovanni, c'est vraiment un film grand public qui aurait vraiment pu marcher dans la lignée du Tombeau des Lucioles. Et puis, il y a eu, je sais même pas si on a vu une affiche dans Paris.
Si, il y avait quelques affiches.
Il y a eu un peu d'accrochage, ouais.
Mais c'est pas au niveau de la
communication, je pense. Mais effectivement, il n'y a pas eu de relais presse sur le film. Après, si ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ça joue, mais c'est vrai que même pour le public français. Et c'est un peu problématique, le cinéma d'animation japonais, c'est Miyazaki, à partir du moment où c'est un cinéma de qualité. Oui, puis, donc c'est pas dit non plus que ça ouvre une voie vers d'autres opportunités de distribution, puisque cette visibilité sera plus présente non plus. Oui. Donc,
ce qui est étrange, vu que Les Enfants Loups avaient été un succès surprise, donc on pouvait penser que ça ouvrait la porte à d'autres
sortes. Et puis à l'image des séries américaines, donc aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers les séries d'animation japonaises, les animés, parce qu'il y en a de plus en plus différents. Et c'est un peu pareil, quoi. C'est vraiment un marché qui émerge énormément ces dernières années. Du coup, les films d'animation faits pour le cinéma en pâtissent un peu, quoi.
Ce qui est bizarre, c'est que les séries, pourtant, elles sont moins bonnes en plus ces dernières années.
Ça dépend. Non, il y a vraiment des très bonnes séries là, qui sont sorties ces dernières années, mais il faut creuser un peu. Oui. Bah, j'en parlais de Terror in Resonance, par exemple.
L'article à venir, non ?
La nouvelle série de Watanabe, qui est pour moi excellente. Et puis il y en a d'autres qui sont prévus là, qui ont l'air vraiment bien.
Il y a l'Attaque des Titans qui passe sur France 4.
L'Attaque des Titans.
Très bonne surprise.
La saison 2. La saison 2 Psychopass, parce que la saison 1 était aussi très 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 bonne. Il y en a plein, faut creuser. Hein. Et du coup, les gens se tournent vers ça. Et même en France, c'est un marché qui est vraiment en plein essor. Avec le simulcast ou Wakanim. Et tout ça qui vraiment distribue les séries d'animation en temps réel, quoi, aux 24 heures après, quoi, la diffusion. Donc,
d'un autre côté, Gimli n'a pas forcément tort de se tourner aussi
vers la série
production télévisuelle, puisque c'est quelque chose qui peut aussi marcher.
Après, c'est peut-être le cinéma qui y perd.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Alors, on va revenir sur une autre mauvaise nouvelle de l'été pour le cinéma asiatique. Trois semaines après la sortie du film, les chiffres de The Raid 2 sont tombés et on était à moins de 90 000 entrées en France, soit à peu près deux fois moins que le premier Raid. Donc c'est assez peu, d'autant que Manuel Chiche, qui a distribué le film via sa boîte Jokers, attendait entre 250 000 et 300 000 entrées sur le premier mois, c'est-à-dire rien du tout. Le distributeur a surtout accusé, et dès en amont, et dès sa campagne de promotion, le piratage illégal, puisque le film était déjà disponible donc sur les sites de téléchargement. Est-ce que, selon vous, cette explication du piratage suffit à expliquer l'échec du film ? Marc ?
Bah écoute, mauvaise nouvelle, je suis pas sûr, parce que déjà le film est nul. Et
une polémique sur une polémique.
Non, mais le film est pas bon.
On peut pas dire qu'il est nul, il y a forcément des qualités.
Même à une femme moche, tu peux trouver des qualités, quoi. Donc, c'est ça, quoi.
D'accord.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi j'avais vu Raid 1, que j'avais trouvé pas mal, mais très très moyen, quoi. Enfin, très répétitif. Pas vraiment original, et là le 2 c'est pire que tout, quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment lancinant. Les scènes de baston, c'est filmé, mais c'est ennuyeux.
Non, ah, si, si, si. Non.
T'étais bourré, non ?
Non, non, alors du coup, alors où j'ai vu, où j'ai vu le film ?
Ouais, ça reste aussi une question.
Parce que du coup, on en revient à la question que posait Victor. Où j'ai vu le film ? J'ai vu le film chez moi, trois semaines avant sa sortie en salle, sur un DVD laptop. Et voilà, quoi. Enfin, je pense que, enfin, même le fait que je l'ai vu sur un écran d'ordinateur, enfin, je veux dire, ça change pas le fait que le film est nul, quoi. C'est juste que c'est peut-être moins impressionnant.
Voilà.
Mais, enfin, je veux dire, les scènes de baston. Il n'y a rien d'incroyable. Même dans le 1, les scènes de baston, il n'y avait rien d'incroyable. On disait, ouais, c'est une nouvelle danse de style, ou je sais pas quoi, un nouveau style de baston et tout. Carrément pas. Enfin, c'est juste des mecs qui se foutent des coups de pied, des coups de poing, quoi. Enfin, on s'en fout, quoi.
Antoine, voilà, je crois que tu as vu le film en salle. Justement, est-ce que ton impression est différente sur le ressenti par rapport à l'ampleur cinématographique, ou en tout cas l'esthétique qu'il peut y avoir dans le film?
Alors tout d'abord, j'avais pas vu le premier, donc j'ai pas d'élément de comparaison entre le premier et le deuxième. Et je rejoindrai Marc sur le fait que le deuxième, effectivement, c'est une enfilade de scènes de baston qui sont surtout des prétextes à une trame scénaristique assez mince. parce qu'en gros, c'est quoi ? C'est un schéma oedipien qui est illustré avec des gros clichés. À un moment, on entend même la sarabande de Handel. Enfin, on peut considérer que c'est n'importe quoi, effectivement, sur la trame scénaristique. À des moments, c'est pas tout à fait nul non plus. Enfin, je vois pas énormément de films de ce genre, mais les quelques-uns que je vois, il y en a qui sont pires au niveau de l'enchaînement des scènes et du sens global du scénario. Cela dit, la plus grande force du film, ou la seule force du film même, on se retrouvera là-dessus, c'est clairement la chorégraphie, la pyrotechnie, la mise en scène, alors pas forcément du combat en tant que tel, ni même le montage en tant que tel, mais la façon dont ça arrive à être rythmé par un effet d'accumulation, un crescendo que j'ai trouvé finalement assez efficace. Les 10 dernières minutes, ou même toutes les 20 dernières minutes où il doit traverser depuis un hangar jusqu'à un bureau central, une succession de niveaux, on va dire que c'est très programmatique peut-être, mais j'ai trouvé vraiment que c'était efficace. Et peut-être que l'effet cinéma, et notamment la bande-son, tout cet environnement sonore, qui est fait, en plus de l'image, hein, qui fait qu'on est dans des conditions de projection hyper immersives, ça a sûrement contribué à cette efficacité que j'ai ressentie dans la dernière partie du film.
Alors, pour recentrer un peu le sujet, c'est vrai que quand je parlais de mauvaises nouvelles par rapport aux chiffres du film en salle, c'était moins finalement pour les qualités intrinsèques au long métrage, mais plus sur en fait la distribution et les possibilités de distribution d'un cinéma asiatique populaire en salle. Puisqu'on se dit finalement, on va parler de Naomi Kawase après, certains films d'auteur trouvent leur public en sortant dans des circuits assez restreints. Quand un distributeur essaye de sortir The Raid 2 comme un blockbuster américain, c'est-à-dire au milieu de l'été avec une grande campagne d'affichage, finalement ça marche pas. Donc on peut se dire pourquoi le sortir en salle, autant le sortir directement en DTV, ou de toute façon ça ne marche pas non plus d'ailleurs en vidéo, donc pourquoi aller sortir ? Et finalement on va se retrouver avec une facette unique du cinéma asiatique qui est le cinéma d'auteur, tout en ratant complètement tout cinéma qui peut être beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus visuel, et qui peut avoir des qualités ou pas, enfin, suivant ses goûts.
De toute façon, les mecs qui sont, ou les femmes qui sont accros au cinéma asiatique, c'est pas en salle qu'ils vont voir les films, parce que les films sont pas distribués, donc ils vont télécharger les films sur AsiaTorrent ou je ne sais trop quoi. Enfin, sans faire de pub.
Une publicité subliminale pour un site de téléchargement illégal.
Non, mais franchement, enfin, en fait, le truc, c'est que c'est un problème complètement complexe. Parce que, voilà, les films asiatiques, ils sont pas distribués en France. Donc, tu les télécharges et tu les vois avant même qu'ils soient distribués ou même après leur distribution. Et s'ils sont distribués en France, tu les as déjà vus. Donc, c'est un autre public. Qui va le voir, c'est pas le mec fanat de cinéma asiatique qui va aller voir va aller voir ce film. Et le truc, c'est que comme les films sont tellement peu distribués en France, bah t'es poussé à télécharger illégalement tous les films. Et moi je me souviens, moi j'avais fait une interview avec Sonotion en 2010 où justement je lui disais mais ça vous dérange pas que vos films soient téléchargés illégalement, parce que tous les films que j'ai vus c'était juste sur internet. Et il m'a dit non, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, c'est juste que mes films sont distribués simplement au Japon, et ben s'ils sont pas distribués en salle en France, ben fais ce que tu veux quoi, enfin fais ta vie et regarde les films, et voilà. Et je pense que c'est ça le truc quoi, c'est que je pense que c'est l'industrie du cinéma qui veut ça, c'est que il n'y a pas de cinéma asiatique qui est diffusé parce que il n'y a pas de diffuseur déjà. Et ensuite, il y a trop de frilosité parce qu'on pense faire un bid et les distributeurs ne feront pas de fric là-dessus. Parce que le cinéma, c'est avant d'être un art, c'est un business. Et du coup, voilà quoi. Enfin, les amateurs de cinéma asiatique, que les films soient distribués ou pas, ils les verront. Et ils les téléchargeront illégalement. Donc, pour moi, c'est un non-débat, quoi.
Mais c'est aussi...
Non, mais après, pour recentrer, c'est... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, forcément. Après, c'est surtout la sortie du distributeur. C'est la sortie du distributeur qui a provoqué le débat, en fait, qui a accusé les gens...
Les propos du distributeur.
Voilà, les propos
de Chiche qui accusent le téléchargement
illégal. Alors qu'il y a eu d'autres éléments, il en parle aussi d'ailleurs dans l'interview, il y a eu d'autres éléments qui ont fait que...
De manière un peu paradoxale, parce qu'ils n'ont pas pu le sortir à temps parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour faire la version française. sachant que les gens qui l'ont téléchargé l'ont vu en version originale,
voilà.
Avec des sous-titres anglais. Donc finalement, c'était pas non plus le même public qui n'est pas allé le voir et qui l'a téléchargé. Donc c'est effectivement, il y a plein de facteurs qui se contredisent un peu dans l'échec du film.
Fallait pas faire de version française. Mmh. Qu'est-ce que tu veux,
fallait faire un bon film aussi, surtout.
Il me semble que les critiques étaient plutôt positives. J'ai pas suivi spécialement, que ce soit du côté du public ou des critiques officielles, mais il me semble que les retours
étaient bouche à oreille, les critiques assez positives.
Les critiques des spectateurs qui l'ont vu forcément en masse, pas au cinéma. C'est ce qui a contribué à créer le buzz quand même. Donc, oui,
pour le 1,
pour le 2 aussi. Non,
pour le 2 aussi,
énormément. Ouais. Beaucoup plus que le 1 même.
Mais là, je suis complètement d'accord avec toi, Marc. C'est absurde, par exemple, de sortir un film. Là, on parle du Sous-Notion tout à l'heure. Alors, il me semble que c'est Wildside qui a acheté les droits. Mm. Il l'avait fait pour Why Don't You Play in Hell. Le sortir dans un an n'a absolument aucun intérêt. Effectivement, on l'aura tous vu. Et on est le public qui ira le voir en salle quand ça sort. Et je pense que la seule...
Après, ça dépend de la promotion aussi. Ils ont essayé, Joker, de faire une promotion, une grosse promotion à coup d'affiche, parfois ironique, justement sur le téléchargement, mais ça n'a pas marché. Après, Why Don't You Play in Hell, ce n'est pas forcément la même cible. C'est un film complètement différent d'un film d'action habituel.
Le problème d'un film d'action asiatique, qui sort d'ailleurs l'été ou pas, au même moment que les blockbusters, c'est que les gens qui vont aller voir un film d'action, ils veulent une tête d'affiche. Qui connaît les acteurs indonésiens, sérieusement ?
Iko Uwais, il est super connu parmi le grand public, tout le monde le connaît.
Pas forcément, parce qu'à l'époque de Hong Bak, je pense que personne ne connaissait.
Il avait bien marché.
Après, ça dépend de la manière dont c'est vendu.
C'est un enchaînement. De toute façon, il n'y a pas une raison à un échec de sortie en salle. Mais ça joue aussi, moi, dans les gens que je connais. S'ils veulent aller voir un film d'action, ils vont aller voir un film américain, ils connaissent au moins un ou deux acteurs.
Est-ce que, par exemple, parce qu'il y a eu Les Gardiens de la Galaxie qui a très bien marché, Chris Pratt, hein. Personne ne le connaissait avant de...
Il y a le label Marvel.
Chris Pratt commençait quand même à être connu un peu avant, surtout pour les amateurs de séries, et donc qui sont de plus en plus conséquents aussi. Donc, voilà.
Soit il faut un label, soit il faut un réalisateur, un nom d'acteur, il faut quelque chose pour accrocher, en fait. Plus qu'une affiche où c'est marqué « Ne téléchargez pas le film ».
Alors là, je rebondis un peu sur les diverses opportunités qui sont maintenant offertes aux distributeurs. Il y a notamment des sorties Day and Date qui proposent le film en VOD le jour de sa sortie en salle. Et c'est ce que propose Netflix, par exemple, avec Tigre et Dragon qui va sortir le 28 août. Ça serait une sortie mondiale. Personne n'aura pu voir le film avant qu'il soit disponible sur Internet, sur leur réseau. Également sur quelques salles, donc en salle, en 3D, IMAX... Parce que c'est possible. Si vous pensez que ça, c'est par exemple Marc, une alternative possible.
Non, c'est pas une alternative crédible parce que je vois pas l'intérêt d'adhérer à Netflix alors que t'as Pirate Bay qui te donne beaucoup plus.
Deuxième.
Non, mais c'est vrai parce que moi je.
Ils donnent des virus mortels aussi sur Pirate Bay.
Ah, ouais, j'en ai jamais eu.
Non, mais le truc c'est que sur Pirate Bay, tu peux même trouver des films ouzbeks ou des films japonais des années 50 que tu trouves pas sur Netflix parce que le catalogue de Netflix, franchement, c'est pauvre.
Il est très très pauvre.
C'est pauvre. Et le truc c'est que quel est l'intérêt d'adhérer à Netflix alors que tu peux trouver plein de films, des super films, super obscurs, que tu n'aurais jamais trouvé avant. Et ben, tu les trouves sur Pirate Bay, quoi. Enfin, voilà, quoi.
Donc, un vibrant plaidoyer pour le téléchargement.
Ben, pour le téléchargement illégal, et je milite pour ça, quoi. Le truc, c'est que je pense que les réalisateurs sont pas du tout contre le téléchargement illégal. C'est juste les distributeurs qui grincent les dents, quoi.
Enfin, non.
Alors, je pense que tu as tout à fait raison sur le point de vue des réalisateurs, effectivement. La plupart, effectivement, préfèrent que leur film soit vu, même illégalement, plutôt que leur film soit pas vu. Ils veulent que leur travail soit connu. Sauf que le succès de leur film va conditionner les films qu'ils pourront faire dans l'avenir. C'est-à-dire que l'argent que les distributeurs et producteurs vont empocher, ça va conditionner le budget que le réalisateur aura pour ses prochains films. Donc, quelque part, aujourd'hui, ça tient debout parce que globalement, les films qui ont du succès, même quand ils sont téléchargés massivement, permettent aux réalisateurs d'avoir un bon chèque, aux distributeurs, aux producteurs d'être contents. Mais si le système va encore plus loin dans ce sens-là, peut-être qu'il y aura un problème pour certains auteurs, certains réalisateurs, qui auront pourtant une base, un public très fidèle, mais qui ne paiera pas pour voir leurs films. Après, le modèle économique va sûrement évoluer par la force des choses dans les années qui viennent. Ça va forcément évoluer d'une manière ou d'une autre.
Ouais, c'est une nécessité.
Tout ça pour dire qu'on est dans un équilibre instable qui, à mon avis, va pas perdurer des années, des décennies comme ça. Ouais. Dans 2-3 ans, ça va sûrement bouger.
Nicolas. Et pour revenir là-dessus, j'espère quand même que toute cette VOD, Netflix, tout ça qui arrive en masse, Amazon et tout ça, j'espère que ça va pas réduire en fait l'impact du grand écran. Parce que pour moi, un film doit être vu d'abord au cinéma, sur grand écran. Parce que c'est là où un film doit être projeté, quoi, doit être découvert. Donc j'espère que justement le nouveau système qui va probablement arriver va pas réduire l'influence du grand écran sur le choix des gens d'aller voir un film, quoi.
Malheureusement, je pense que tu as tort.
Ouais.
Et de quoi?
Bah, ce sera pas le cas, quoi. Enfin, les gens.
Non, je pense que j'ai tort. J'espère avoir raison, mais je pense que ce sera pas le cas, malheureusement. Après, évidemment, tous les films qui sont pas distribués, je rebondis sur ce que tu as dit, tous les films qui sont pas distribués en France, t'as pas le choix, hein. Tu vas pas le pouvoir les voir au cinéma, à part si tu possèdes une salle de cinéma privée chez toi et que tu peux faire des petites projos 7.1 Dolby Surround. 4K, mais bon.
Qui, par exemple, était au courant du film de Sonotion qui parle de Avril Lavigne? Hein? Qui est sorti en 2007, juste avant Love Exposure.
Quoi?
Ben voilà, Sonotion a fait un film qui parle d'un casting sur Avril Lavigne.
C'est quoi le titre du film?
Non, c'est pas Skater Boy, c'est j'ai oublié le titre, mais voilà. Enfin, ce sera jamais distribué, quoi.
Non, jamais.
Et d'ailleurs, j'ai le film, mais j'ai pas de soucis.
Mais il y a d'autres problèmes avec pour le coup, parce que quand, effectivement, tu sais qu'un film ne sera pas distribué, effectivement, tu peux le voir, ou un film ouzbek des années 50, enfin, il n'y a aucun scrupule à le télécharger. Quand tu sais qu'un distributeur, comme c'est le cas pour The Red 2, va sortir le film en salle 3 semaines après que tu aies le fichier pour le voir. Voilà, c'est là où, en fait, bon, après, je suis un peu un cinéphile de la vieille école, mais je ne comprends pas l'intérêt, en fait, de le voir sur ton écran d'ordinateur.
Qui a leaké le film? C'est ça aussi. Est-ce que c'est le producteur lui-même qui a leaké le film?
Non, il est sorti en DVD aux États-Unis, avant sa sortie française. Donc, il y avait des sources qui étaient disponibles à partir du moment où un film est disponible en DVD à l'étranger. Effectivement, le film est disponible partout dans le monde. Ce qui oblige effectivement les distributeurs à se mettre au diapason sur toutes les sorties mondiales qu'il peut y avoir.
Bah, franchement, c'est à eux de faire la police, quoi. C'est pas aux mecs qui téléchargent de faire la police, quoi.
C'est peut-être là que Netflix et compagnie, avec les sorties mondiales simultanées sur un support, vont peut-être trouver le moyen un peu de remédier à ça.
Après, du moment que le film continue à sortir en salle.
Il ne faut pas, justement, ce que je disais, il ne faut pas que ça remplace.
Effectivement, je ne vois pas la différence entre le voir sur un abonnement Netflix, où c'est quand même légal, mais de le voir illégalement sur un fichier en HD. À partir du moment où je peux le voir en salle, j'irai voir le film en salle.
Par exemple, on parlait tout à l'heure, pour l'étrange festival, du film de Nakashima qui est sorti. Excusez-moi, je crois que Confession n'est pas sorti en salle en France, quoi. Et je pense que son dernier film ne sortira pas en salle non plus, quoi.
Bah non, mais dans ce cas-là, tu télécharges, moi. Tu peux.
Bah voilà.
C'est pas grave.
Donc, go fuck yourself, quoi.
Bah oui, mais ça, forcément, oui.
Après, est-ce que ça manque pas peut-être aussi de. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, bon, il n'y avait pas le téléchargement, mais il y avait des passeurs, enfin, dans la presse grand public, qui pouvait éveiller l'intérêt du grand public. Le problème, c'est le grand public. Vu que les fans, si ça sortait directement en salle, ils iraient en salle s'il n'y avait pas autant d'écart. Mais c'est le fait d'éveiller l'intérêt du grand public dans la presse, un peu le grand public cinéphile.
Je pense pas que c'est beaucoup d'influence sur les distributeurs. Quand un distributeur choisit un film, par exemple, qui passe en festival, le fait qu'il puisse avoir de bonnes critiques ne va pas pousser le distributeur à le sortir. Je pense que là, l'intérêt commercial prime vraiment sur maintenant, effectivement, sur le passeur que peut avoir la presse.
D'autant plus que personne, plus maintenant, ne lit la presse, genre les cahiers du cinéma et tout, quoi. Enfin, je veux dire, ils vendent rien, quoi.
Ils n'ont jamais vendu énormément. Après, au-delà de ce qu'ils vendent, c'est effectivement l'influence que ça peut avoir. Ils n'ont plus l'influence aujourd'hui qu'ils avaient à une époque, ça c'est clair. Après, est-ce qu'il y a une prescriptrice, j'arrive pas à le dire, prescriptrice, c'est quelque chose qui est tellement suranné aujourd'hui, la notion de presse prescriptrice, que Alors, enfin, est-ce qu'il y en a une? Voilà.
Peut-être pour les cinéphiles, mais en tout cas, pas, ça ne joue pas sur la distribution.
Même
sur
pour les cinéphiles, c'est extrêmement éclaté dans ce cas-là. Chaque...
Mais je veux dire, à l'époque,
il y en a qui veulent lire des chapelles, il y en a qui veulent lire les cahiers positifs, je ne sais quoi.
Je veux dire, à l'époque, même un premier.
Ou qui vont sur Istasia ou sur d'autres
sites. Je veux dire, à l'époque des années 90, même un premier, des choses comme ça, tu commençais à pouvoir lire un ou deux ans avant que tu aies des John Woo qui arrivent en salle en France, tu pouvais déjà lire des retours. Là, je parle pas des cahiers, en première, c'est quand même assez bien grand public. Et puis, on pouvait déjà avoir des premiers échos, même sur des films en import, même si ça sortait pas où ils en parlaient. Maintenant, ils se concentrent sur l'actualité sans essayer d'aller creuser un peu. Du coup, il y a juste les fans qui sont au courant et qui iront le télécharger. Il n'y a pas de curiosité pour plus loin que ça. Quoi.
Oui, pour le grand public, je suis désolée, mais c'est le journal de TF1 qui joue pour aller voir un film.
Je pense première qui est ciné live et compagnie.
Non, mais non, enfin, moi je vois dans ma famille, on n'a aucun qui va acheter un magazine de ciné, ils vont au cinéma quand ils ont vu la bande-annonce présentée au journal de TF1, quoi. Avec l'interview de l'acteur.
Ou au grand journal qui peut.
Ou au grand journal, enfin, quand je dis TF1, c'est pas que. Enfin, voilà, c'est la télé, quoi.
Mais oui, malheureusement, on en est là.
C'est tout, en fait.
Et je ne connais pas les chiffres pour Still the Water de Naomi Kawase, qui a éclaboussé les salles obscures après son plongeon cannois. C'est donc son dernier film, une chronique adolescence sur fond de deuil dans une petite île japonaise. Le film est toujours aussi contemplatif et animiste. Est-ce que Kawase ne se répète pas un peu avec ce film, Antoine ?
Alors, d'après Naomi Kawase, si on l'écoute, c'est très intéressant d'entendre la conférence de presse qu'elle a donnée avant le Festival de Cannes. Elle considérait que c'était son chef-d'œuvre, son plus grand film, l'accomplissement de sa carrière. Une œuvre qui aurait mérité la Palme d'Or et qui, malheureusement, est partie sans rien du tout, hein, à l'issue du Festival de Cannes. Alors, donc, on arrive avec des préjugés un peu récalcitrants. Enfin, disons que Naomi Kawase, donc, ce grand cinéaste contemplatif, panthéiste, qui a fait des films qui, plastiquement, étaient pour certains vraiment, vraiment magnifiques, avec toujours une sorte de rigueur, de mystique en même temps, qu'on retrouve évidemment dans Still the Water. Et donc, on arrive avec un certain nombre d'attentes sur le film, d'appréhensions également. Le ressenti final, j'ai trouvé que Still the Water était un beau film, finalement, mais dont la force est également la faiblesse. Alors, qu'est-ce que c'est que sa force ? Le film a une sorte d'ampleur dans la manière dont il raconte, dont il mélange dont il mêle en fait le déchaînement des éléments naturels avec la passion entre les amours, disons plus ou moins animés entre deux jeunes gens et leur relation familiale. Il y a une manière de mélanger tout ça avec le deuil de la mère, avec un propos finalement très simple derrière, parce que qu'est-ce que le film raconte? En gros, il raconte le passage du temps et l'entrelacement entre la vie et la mort. Donc le propos est vraiment simple. Cela dit, il y a une manière de le montrer qui est assez... qui est très très belle, je trouve. Ça, c'est la force du film, cette façon vraiment de capter de manière presque documentaire la réalité de ce qui se passe sur l'île. La première scène, par exemple, est saisissante. Enfin, la deuxième, la première scène, c'est les vagues déchaînées, et donc une manière de filmer la tempête qui est déjà qui nous introduit de manière assez, assez fascinante dans le film. Et la scène qui suit, c'est celle de l'égorgement d'une chèvre, montrée de manière réelle, enfin pas de hors-champ, on voit directement dans le cadre cet égorgement. Et enfin, j'ai trouvé que c'était quasiment insoutenable. Parce que certes, on voyait du sang comme dans beaucoup d'autres films, mais ici, il y avait une réalité de ce qui se passait, quelque chose qui n'était pas truqué. Il n'y a pas de trucage. Naomi Kawase ne triche pas, elle montre la réalité telle qu'elle est. Et c'est là qu'on arrive à la faiblesse du film, je trouve. Parce qu'à force de vouloir rendre son film vivant, de vouloir lui faire advenir les choses réelles, les choses accidentelles qui vont venir irriguer son film, elle perd un peu de la rigueur, notamment de la rigueur formelle, plastique, de mise en scène qu'elle avait auparavant. Je trouve que le film, certes, possède de très belles images, mais est beaucoup moins beau, moins fascinant que certains films qu'elle a fait dans le passé. Et du coup, je suis très partagé. Je trouve qu'à la fois, ce film est vivant, vibrant, frémissant de ce que du propos de Naomi Kawase, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup moins rigoureux et fascinant, et peut-être même de moins énigmatique, finalement, que ce qu'elle faisait avant. Peut-être parce qu'elle s'est trop à l'approche documentaire et à cette façon de laisser advenir les accidents et de moins préméditer sa mise en scène. D'autres pourront y voir une qualité. Moi, j'y vois plutôt un défaut.
Parce qu'elle a réalisé aussi plusieurs documentaires.
Bien sûr, notamment sur l'accouchement naturel, qui était son dernier film.
Un super beau film.
Qui est un beau film parce qu'il assumait sa dimension documentaire. Hein, là où Still the Water s'assume comme une fiction et essaye de mettre en scène la fiction de manière assez rigoureuse par certains moments, mais finalement lâche prise. et ressemble trop à un documentaire. Et je trouvais que c'était un peu hybride. Voilà, il n'avait pas la rigueur.
Je te rejoins là-dessus, en fait. C'est vrai que j'ai toujours trouvé que, de toute façon, le cinéma de Kawase se rapprochait énormément du documentaire. J'ai pas vu beaucoup de films de Kawase. De ceux que j'ai vus, c'est vrai que des fois, j'ai eu un peu de mal. Je trouvais ça vraiment énigmatique par moments. J'ai eu plus de mal à accrocher parfois, même si je trouve ça très beau plastiquement, même si il y a des scènes magnifiques. À mon avis, Still the Water, c'est presque son film le plus simple de ce que j'ai vu, plus accessible pour le grand public entre guillemets, parce que ça parle de choses simples, des scènes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de. Enfin, le sens est simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir. On contemple. C'est très contemplatif. Le film renferme d'ailleurs des scènes magnifiques avec la mer notamment. Et je trouve qu'il y a des thèmes très proches de ceux de Miyazaki en fait. Déjà la tempête, forcément tous les éléments, la mer, la maladie, tout ça, on retrouve notamment dans Le Vent se lève ou même dans Ponyo, on retrouve toute cette matière-là. Et je trouve que de ce côté-là, c'est assez intéressant de faire un espèce de parallèle justement, de voir que Kawase, c'est un peu là, elle se rapproche en version plus documentaire du côté live de Miyazaki en fait.
Je me rappelle, il y a quelques mois, tu pestais contre cette systématisation des tempêtes dans le cinéma japonais. Oui, dans le cinéma d'animation.
Mais pour le coup, là, c'est vrai, dans le cinéma d'animation. Mais là, pour le coup, on retrouve cette thématique, mais c'est utilisé quand même à une fin assez différente. C'est-à-dire que ça. D'ailleurs, je trouve que la scène de la tempête, qui est toujours la force des films de Miyazaki, n'est pas forcément la force du film de Kawase. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là où le film se délite un peu, je trouve, sur le dernier tiers. Mais moi, je j'aime bien en fait le parallèle entre ces deux cinéastes sur ce film-là en tout cas, et peut-être après qu'il y a d'autres films que j'ai pas vus qui mettent en exergue ce parallèle-là aussi, mais je trouve ça très intéressant en tout cas.
Marc, tu veux
moi j'ai vu tous les films de Kawase, enfin tous ses longs métrages et pas tous ses documentaires, mais j'ai trouvé justement que le passage entre le documentaire et la fiction était vraiment très 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 bien fait sur ce film. Et filmer des personnes qui sont sur une île et tout, enfin ça m'a fait penser au film L'île nue un peu. Mais j'ai trouvé que je pense que c'est un des meilleurs films de Kawase, parce qu'elle a vraiment fait un beau boulot. Les plans sont superbes. Enfin, je veux dire, quand elle filme les personnes sur la plage ou dans leur maison, enfin c'est vraiment très très beau. Pour moi, c'est un de ses meilleurs films. Et il y a eu une sorte de bashing par rapport à ce film après son échec à Cannes que franchement, je trouve pas légitime, quoi, parce que on a dit soit Kawase fait du Kawase, donc on en aura le bol, ou soit Kawase fait du cinéma d'auteur et tout, quoi. Enfin, je trouve ça un petit peu irrévérencieux et complètement nul, parce que, enfin, je veux dire, le film en lui-même est vraiment très très bon, et je comprends pas qu'on puisse critiquer une personne pour faire le cinéma qu'elle fait, ou dans ce cas-là, il faut carrément critiquer toute son œuvre depuis qu'elle fait du cinéma depuis les années 90, quoi. Et voilà, quoi. Après, elle n'a pas eu la palme à Cannes. C'est un fait, mais le film en lui-même est de très très bonne facture, quoi.
Pour le coup, il y a eu un retour de bâton aussi après Cannes, c'est-à-dire pendant le festival, les critiques étaient très élogieuses, et le film était annoncé comme étant la Palme d'Or. C'est pas uniquement Kawase qui le prétendait. On faisait déjà des comparaisons entre le film et le cinéma de Jeanne Campion, qui était présidente du jury, et je pense qu'il y a eu aussi cette prise de conscience, une fois que le film n'était pas Palme d'Or, un retour critique sur le film qui, effectivement, a créé un peu une mini-polémique comme ça sur le fait qu'il n'était pas si bien que ça, vu qu'il n'avait pas eu la Palme d'Or. Finalement, ça n'a pas d'importance qu'un film n'ait pas la Palme d'Or.
Et pour revenir aussi sur les scènes d'égorgement, moi, ça m'a fait penser un petit peu aux scènes d'égorgement d'un film philippin, Silip, qui date des années 90, où justement tu as une scène d'égorgement en temps réel d'un buffle, je crois. et qui est vraiment super prenante. Mais là, Kawase a réussi à faire des égorgements de moutons qui sont... Enfin, moi, ça m'a touché, quoi. Et même sa façon de filmer la mort. Tu vois, par exemple, Victor, quand on parle de... Quand il y a la scène de la veillée de la mort et que la personne meurt. Tu vois, en fait, moi, ça m'a... En fait, c'est... ouais, spoil, ouais. Mais, c'est pas vraiment un spoil. Mais moi, ça m'a fait penser... Moi, ça m'a touché émotionnellement. Parce que il se passe que je sais pas dans, enfin moi je viens de Bretagne et je sais pas si vous c'est pareil pour vous, mais
je sais pas, je suis pas encore mort donc.
Non mais genre quand il y a une
personne, en
fait, est-ce que vous faites des veillées de mort?
Non, pas non, enfin, non, pas moi. Mais non.
Ok, enfin genre veiller les morts jusqu'à ce qu'ils donnent leur dernier soupir. Ben en Bretagne nous on le fait. Et enfin, en tout cas, pour ma famille, moi, je l'ai fait. Et quand j'ai vu ce film de Kawase, je l'ai vu hier, bah, ça m'a carrément touché, quoi, parce que je me remémorais des scènes que j'avais vécues moi-même pour ma grand-mère qui était décédée et tout, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça super bien filmé. Et c'était pas du tout dans le côté démonstratif, quoi. C'était vraiment dans le côté laid-in, quoi.
Moi qui n'ai pas vécu de veillée, j'ai trouvé que c'était une des scènes les plus fortes du film. En fait.
Oui, ça,
j'ai quasiment versé ma petite larme. J'ai trouvé cette scène vraiment superbe.
Non, parce que ce qui est très bien dans cette scène, c'est que tu as l'avant, tu as le moment et tu as l'après. Et elle continue en fait cette scène. C'est pas une fin. La mort n'est pas une fin en soi. Et c'est vraiment représenté dans la mise en scène de cette séquence justement. C'est-à-dire que la vie continue, quoi, et c'est un peu ce qui parcourt tout le film. Et je trouve que c'est très, très, une très, très belle scène à ce niveau-là. Après, je voulais rebondir sur les brebis égorgées. Moi, ça me gêne vraiment que dans la fiction, les animaux, là, c'est un peu le problème. Alors,
juste,
du film
est-ce
pour
que
moi.
Tu peux expliquer, parce qu'il y a eu une polémique autour justement de cette scène, est-ce que tu peux recontextualiser un peu cette polémique?
C'est juste que des brebis sont égorgées face caméra, donc il n'y a aucun élément qui peut nous permettre de dire que c'est faux, en fait. On a vraiment l'impression que c'est vrai, et du coup, moi, ça me gêne que dans la fiction...
je pense que c'est vrai.
Moi, j'ai essayé de trouver un montage, enfin un niveau du montage, pour voir si c'était vraiment, si c'était, ça pouvait y avoir quelque chose de trafiqué, mais non.
Et je pense que la régie s'est régalée après et que l'équipe technique.
Le problème, c'est que donc, comme on disait, Kawase se rapproche beaucoup du documentaire, et donc, je sais pas si dans un documentaire, le fait de filmer finalement ce qui se passe réellement, des moutons qu'on égorge. Ou n'importe quoi soit gênant, puisque c'est ce qui se passe, quoi. On le montre, on n'essaie pas de détenir la vérité. Par contre, dans une fiction, ça reste un film de fiction.
C'est le fait de provoquer la mort d'un animal qui t'a choqué.
Le fait de provoquer la mort d'un animal pour un film, quoi, ça m'a toujours choqué. Donc,
puisqu'ils en ont profité après qu'ils devaient crever, de toute façon, je sais
pas. Non, les choses qui arrivent.
Moi, c'est ce qui me gêne un peu dans le film.
Mais c'est les choses qui arrivent à André Roublev, qui a
je sais qu'il y a plein de films hollywoodiens où il y a des trucs et que la mention aucun animaux n'a été maltraité, c'est un peu galvaudé.
Donc, de manière récente, il y a plus de vigilance aujourd'hui pour pas que ça ait lieu. Et c'est vrai qu'il y a un tel formatage là-dessus, enfin un tel contrôle dans la plupart des films commerciaux qu'on voit, que la liberté que s'accorde Kawase dans ce film nous perturbe, en tout cas nous interpelle. Et en même temps, je vais reprendre peut-être la défense de cette scène malgré tout, parce que il y a quand même une cohérence dans toute la démarche de Naomi Kawase, ça on ne peut pas lui retirer, même si je suis très réticent par rapport à ce mélange de réalité-fiction. Je trouve quand même qu'il y a une cohérence, une sincérité dans sa démarche. On sent qu'elle parle avec ses tripes, qu'elle s'exprime, et le fond du reproche que je peux lui faire, c'est plus par rapport à un pur travail de cinéaste, un travail plastique, où certes les images sont très belles, mais je pense qu'elle aurait pu aller plus loin dans cette façon de mettre en scène l'île, les personnages, même si elle filme très bien ses interprètes. Je pense, à des moments, on sent qu'elle ne cherche pas à cadrer spécialement le film, elle ne cherche pas non plus au niveau du montage ou du rythme de scénario à construire quelque chose. Voilà, je trouvais qu'il y a quelque chose malheureusement d'un peu informe, ce qui m'a pas empêché d'avoir trouvé que c'était un très beau film, une fois de plus.
4 ans après Le Règne des Assassins, le demi-film de John Woo, plus de 6 ans après Les Trois Royaumes, son dernier vrai film, nous n'avions plus de nouvelles de John Woo jusqu'à ce que The Crossing arrive avec une nouvelle bande-annonce il y a quelques semaines. On n'y croyait presque plus et on a eu la surprise de découvrir une bande-annonce qui dure à peine une minute, mais dans laquelle on voit déjà des larmes, de la guerre, du sang, des ralentis, pas encore de colombes, mais justement on les attend. De ce drame historique qui va durer donc près de 5 heures et qui sort très prochainement en Chine. On a vu la bande-annonce juste avant ce podcast. Justin, qu'en as-tu pensé? Et est-ce que ça annonce enfin le retour de John Woo?
Il était déjà quand même bien revenu avec Les Trois Royaumes. C'était quand même par rapport à ce qu'il avait pu faire à Hollywood. Mais c'est vrai que là, on sent dans un côté plus romanesque tout ce qu'on aime chez John Woo. Donc... Le spectaculaire, les grands sentiments, les scènes d'action, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, là c'est vrai que c'est une bande-annonce, c'est fait une minute, ça condense, ça a l'air un peu too much, mais bon, sur l'ampleur d'un grand film de 5 heures, en plus il n'a jamais fait de vrai mélo premier degré, en fait, ça se fondait toujours dans du film d'action ou dans d'autres genres, donc là... Ça a l'air du grand mélo historique, pour la première fois il va s'y attaquer, donc vu comme il a réussi à bien le fondre dans d'autres genres qu'il a abordés, on peut espérer un grand film.
C'est un film que vous attendez aussi?
Les Trois Royaumes, j'avais trouvé ça très très mauvais, et j'attends pas grand chose de John Woo maintenant. Je pense que le mec a grillé ses dernières cartouches au début des années 90 et à la fin des années 80. Et c'est là où je le préfère. Il était vraiment très bon. Et maintenant, j'attends plus rien de lui. Quoi.
Hollywood, Volteface...
Ça, jusqu'à la fin des années 90, Volteface, c'était quand même un grand film.
Et c'est quoi? C'est 94,
97.
97, ouais.
Après, c'est son dernier bon film.
Antoine, c'est un film que tu attends, The Crossing, ou...
Moi j'ai peur de penser, enfin peur, je pense un petit peu comme Arcatu de manière un peu moins radicale. Je l'attends quand même parce qu'il y a des cinéastes parfois qui ressurgissent, qui... Disons que John Woo, il y a toujours une maîtrise formelle effectivement chez lui, même dans Les Trois Royaumes. Il y a une force épique effectivement, même si il n'y a pas la vigueur stylistique de ses films d'il y a 20 ans. Mais on ne sait jamais, il y a des cinéastes parfois qui reviennent sur le devant de la scène, et oui, je l'attends, pas avec extrêmement d'impatience, mais j'irai le voir.
Nous allons terminer ce podcast avec nos conseils cinéma hors Asie et les films que nous attendons. Je vais commencer le tour de table par Antoine. Quel serait ton conseil en dehors des films asiatiques que nous avons évoqués ce soir?
Je pense pas qu'il y ait de grands films en salle, mais il y a un certain nombre de films assez divers et assez intéressants. Moi je conseillerais Le Dernier Bonello. Enfin, j'ai beaucoup aimé Le Dernier Bonello, Saint-Laurent. Qui est peut-être pas un film parfait, qui est peut-être pas le meilleur film de Bonello, mais qui fait quelque chose que je trouve assez fascinant, assez vertigineux dans sa juxtaposition des époques, dans sa façon de jouer avec le temps, ce côté un peu proustien aussi qu'il y a dans le film, Viscontien. Et de nos jours, c'est quand même très rare, les films comme ça. Et je pense qu'il y en aura de moins en moins encore dans les années à venir. Et je pense que voilà, c'est un peu une sorte de feu d'artifice crépusculaire d'un certain type de cinéma, à la fois très audacieux et expérimental, et en même temps très... qui plein de résurgences de grands films des années 70.
Quelqu'un d'autre l'a vu, le Bonello, ou
Oui.
T'es d'accord, Nicolas, ou
Je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que... Enfin, je suis d'accord avec ce qu'il dit par rapport à tout ce qui travaille sur le temps, la narration, c'est très intéressant. Après, moi, j'ai vraiment du mal avec La Vie de Saint-Laurent, quoi. C'est vraiment un film vie qui m'intéresse pas du tout, donc déjà, là-bas, ça part mal. Et il y a des scènes super dans le film, notamment la fin, la façon dont il revient, justement, le côté proustien dont il revient sur de façon très mélancolique sur un défilé avec le montage en split screen qui se rapproche de sa création d'ailleurs, qui est très intéressant. Après, il y a des problèmes de rythme, mais affreux, je trouve. Il y a des moments, surtout dans la deuxième partie, où je me suis fait atrocement chier. Puis il y a aussi cette séquence de discussion de 10 minutes avec Berger et les Américains qui parlent d'économie de mode pendant des plombes.
C'est quasiment
ça donne juste choix, envie de mourir, quoi. Enfin, quoi, parce que t'as rien appris au final, c'est tellement barbant et chiant. Donc je comprends ce qu'il a voulu faire avec cette scène. Il a voulu vraiment donner un truc très proche de ce qui était la mode à cette époque là mais au bout d'un moment j'en pouvais plus, quoi.
Antoine, il y a un film que tu attends au mois d'octobre, novembre, ou plus tard.
Écoute, pas spécialement, peut-être le nouveau David Fincher, Gone Girl. Voilà, et puis sinon, rien en particulier.
Et une transition toute trouvée. Justin, quel est le film que tu conseilles ce mois-ci?
Alors, ce mois-ci, je verrai deux films. D'abord, Gone Girl, qui est Avenir, donc, de David Fincher. Donc qui est assez surprenant dans ce qui en a été montré jusque-là. Donc plutôt que le thriller un peu oppressant qu'on nous vend, en fait c'est beaucoup plus ironique, beaucoup plus mordant que ça. Donc sans trop en dire, vu qu'il y a pas mal de rebondissements, on peut imaginer un traitement à la Fight Club, donc Fight Club dénonçait un peu l'ordinaire du trentenaire. Qui s'ennuie, qui sait pas trop quoi faire de sa vie. Donc là, c'est le même genre de traitement un peu ironique, mais sur l'institution du mariage. Donc il y a un côté très moqueur sur les petites villes pavillonnaires américaines, la vie banlieusarde, l'institution du mariage. Et donc il y a ce côté thriller, mais bon, il y a pas mal de rebondissements qui vont remettre ça en cause, voilà, sans trop en dire, mais c'est très, très intéressant. Il y a peut-être un petit manque d'empathie, de sentiment, c'est peut-être un peu froid. On pourra trouver, même si tous les acteurs sont très bons, ce serait peut-être le seul petit reproche, mais c'est un bon jeu de massacre dans l'ensemble.
Et un film que tu attends?
Et un film que j'attends. Ça sort encore dans un petit moment, mais le prochain Nolan, Interstellar, et une nouvelle bande-annonce qui est tombée. Ça a l'air de plus en plus intriguant, son film un peu SF à la 2001, apparemment ça a l'air d'être une espèce d'inverse, un Inception, donc je l'attends. Et en salle en ce moment, peut-être un homme très recherché de Anton Corbin, donc une adaptation de John Le Carré, donc film d'espionnage peut-être très froid, très oppressant, très lent, mais où on retrouve ce côté fatalité. Donc on est dans pas mal de films d'espionnage, de classiques d'espionnage comme L'espion qui venait du froid, où il y a le côté calculateur du monde de l'espionnage qui prend le pas sur l'humain au final. Après tout un développement d'une intrigue, ça peut un peu faire penser à La Taupe, mais en plus intimiste, en moins virtuose, comme disait Antoine, on en avait parlé avant. Et donc c'est plutôt très réussi.
Nicolas, quel est ton conseil cinéma de ce mois-ci?
Donc c'est un conseil cinéma que vous n'aurez sans doute pas l'occasion de voir, malheureusement, parce qu'il est atrocement distribué de façon incompréhensible. Donc c'est High Origins de Mikhaïl, son deuxième film après.
Je suis sûr qu'on trouvera des manières de le voir.
C'est simple, il est encore cette.
J'ai pas osé l'acheter.
Oui. Si vous voulez le voir au cinéma, en tout cas, il est encore au Publicis cette semaine. J'espère qu'il sera peut-être encore la semaine prochaine. En France, il y a 9 autres salles en France, donc si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, jetez-vous dessus parce que c'est un film magnifique. Donc c'est le film de Mikhaïl qui après son deuxième film après Another Earth, qui était sorti il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui était déjà très beau. Et donc c'est un film assez original parce que ça traite à la fois de questionnement qui a déjà été traité des milliers de fois au cinéma, de la confrontation entre la science et le spirituel, entre guillemets. Sauf que la façon de le traiter dans le film, c'est ce qui en fait sa beauté, en fait. C'est-à-dire que ça ne prend jamais parti pour l'un ou pour l'autre. Ça annonce des faits scientifiques, mais en même temps, ça laisse une grande part à l'inconnu, à la spiritualité. Pas forcément quelque chose de très religieux, d'ailleurs. C'est vraiment dans la spiritualité au premier sens du terme. Au fait de croire à quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas si ça existe ou pas, et qui peut être présent à côté de nous. Et il y a des très belles scènes déjà, parce que c'est un film qui laisse vraiment l'émotion surgir de façon très juste. Une très belle palette d'émotions qui est pendant tout le film. C'est un film qui nous fait énormément voyager aussi, que ce soit métaphoriquement ou littéralement d'ailleurs. Et puis les acteurs sont merveilleux, les histoires d'amour sont très justes. C'est de très belles idées de mise en scène. Puis il y a une petite actrice indienne dans le film qui est absolument merveilleuse. Je sais pas comment elle l'a trouvé, mais c'était.
Est-ce que tu as une attente sur les films qui arrivent et que tu n'as pas encore vu?
J'ai pas trop réfléchi. Ce qu'il y a de bien. Bah, en fait, c'est plutôt des films de 2015 que j'attends, donc c'est pas très intéressant de les citer maintenant.
One on One de Kim Ki-duk.
Non, c'est plus. Bah, moi, là, le film qui m'a. Enfin, la grosse claque, en fait, qui m'a. Enfin, la bande-annonce qui m'a mis une grosse claque dernièrement, enfin, c'est déjà depuis un mois, c'est le Mad Max, le remake de Mad Max qui.
George Miller.
Ouais, de. Donc, le. Non, c'est pas le remake d'ailleurs, c'est le quatrième.
Enfin, ça a l'air d'être un remake du deuxième quand même.
Ça a l'air chaud, ça a l'air chaud.
Entre guillemets, mais. Enfin, la bande-annonce est juste une tuerie totale et ça a l'air vraiment impressionnant, quoi.
Marc, est-ce que tu as un conseil cinéma à donner?
Ben, j'ai pas de conseil cinéma étant donné que je vais jamais au cinéma, mais Kawase, style Like Water, que je conseille à tout le monde, et allez le voir parce que ça va pas durer longtemps, donc allez-y.
Et un film que t'attends?
Et un film que j'attends, pas John Woo.
Bon, moi je vous conseille. Petit quinquin de Bruno Dumont qui a été diffusé sur Arte le mois dernier et qui sort en DVD et Blu-ray ce mois-ci. J'en avais déjà pas mal parlé dans le podcast de Cannes et c'était assez intéressant et impressionnant sur grand écran. Et je pense que ça l'est toujours d'ailleurs sur petit écran. Parce que Bruno Dumont arrive à respecter et à dynamiser complètement les codes de la série télé française, qu'elle soit humoristique ou policière, tout en faisant complètement du Bruno Dumont et à peu près ce qu'il fait habituellement. Donc ça change complètement de tous les codes qu'on a pu voir actuellement à la télévision française. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu d'ailleurs.
Oui, oui. Moi, j'avais vu aussi sur grand écran à la suite les 4 épisodes. C'est vrai, après, il paraît qu'il y a pas mal de ch'tis qui l'ont mal pris. Petite polémique aussi à ce niveau-là, disons que c'est la moquerie pure. Enfin, il y en a qui l'ont bien pris, qui ont trouvé ça très drôle, et puis d'autres qui.
Oui,
c'est un peu susceptible.
Et au niveau des attentes, effectivement, j'ai dû aussi aller jusqu'en janvier 2015 pour trouver un film que j'attendais vraiment, qui est Black Hat, qui a un titre français maintenant, ça s'appelle Hacker, et c'est le
nouveau Michael Mann. Okay, ouais, voilà un film que j'attends aussi.
Qui a rien fait depuis Public Enemy, à part.
Qui est gâché d'ailleurs.
C'était un peu moins bien que habituellement, je vais dire, mais là, Hacker, ouais, donne vraiment.
La bande-annonce, elle est juste. Il y a le nouveau Clint Eastwood aussi, on n'a pas parlé, qui a eu la bande-annonce qui est sortie hier ou avant-hier, d'ailleurs. Ça s'appelle American Sniper, qui parle du meilleur tireur d'élite de l'histoire des États-Unis. Donc, à voir ce que Clint Eastwood va faire avec ce film, parce que on connaît un peu le côté réac. Il risque d'en faire un peu un héros américain.
Fait vrai quand même.
Ça dépend maintenant. Il a un peu mûri, il a un peu évolué.
Même
aussi,
avant, comme c'était plus.
Moi, j'ai jamais trouvé ça évident que ça. Pour le coup, Eastwood, mais.
En tout cas, ses films sont excellents, donc on s'en fout de sa position politique, quoi.
Après, est-ce que tu peux citer un film réac de Clint Eastwood, enfin, qui est signé par lui, indépendamment justement de.
Grand Torino, quand même, un petit peu côté.
Non, c'est juste. C'est l'inverse. Non. C'est limite.
C'est l'inverse. Parce
il prend son personnage d'un peu juste.
Ça part d'un.
C'est ça le génie de ce mec, quoi. Parce que ses positions politiques, on en a à foutre et il fait des films super, quoi.
Parce que ça inverse complètement son imagerie de un peu justicier la forcément de se trop pendre, mais la fin du. On croit que ça va aller dans cette direction, et puis le final, ça inverse complètement ce qu'on attendait.
C'est le génie.
Enfin, bref, j'espère qu'il ne fera pas du. Le grand héros américain était quand même. Enfin, le sniper. J'espère qu'il ne va pas en faire un grand héros américain parce que c'était quand même un sacré psychopathe, en fait, dans sa tête. Donc, j'espère qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à ce niveau-là par rapport à.
Bon, bah, très bien. En tout cas, c'est beaucoup de films que l'on attend de voir sur grand écran. On se donne donc rendez-vous le mois prochain. On parlera notamment du festival du film coréen à Paris et pas mal d'animations aussi lors du prochain podcast. Signe spécial. なんでだろう切れてるメラ全く悪くねえ奴らにジェラ武蔵野なら硬いぜキスなではねしないぜキスは今夜もラブとピースヒップホップ次でもないぜディース最高の夜は終わらねえほらかいみんなに教えてやれ OK 武蔵野は今日もラブ&ピースヒップホップヒップホップラブとビーツ着物
わった仲間との友情詫びじゃないぜ俺たちの愛情さっさばよりも情に熱い笑いねくらいに冗談きつい兄弟たちの武蔵野サシの男たちそしてテナガ仲間と乾杯、yeah!見ていてんだいつも通りまたいつものメンバー、yeah. この街を愛し代表してんだ教えてやれよここが OK ここが武蔵野平和と愛と仲間が溢れている